des livres plein les oreilles. Quand le roman se marie avec l'histoire, généralement, on adore ça. En tout cas, vous êtes nombreux à aimer ce style littéraire. La Seconde Guerre mondiale a donné lieu à bon nombre de documents visuels, sonores et littéraires. On sait ce qui s'est passé à l'extérieur de nos frontières si on est un tant soit peu curieux de nature. Mais savons-nous tout ce qui s'est passé au Québec durant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les eaux du fleuve Saint-Laurent alors que nos pêcheurs côtoyaient les sous-marins allemands? On a alors toujours besoin d'auteurs passionnés, hein, d'histoire et d'écriture. Eh bien, nous en avons un auteur passionné, il s'appelle Normand Payette, il a signé Les Surveillants du Saint-Laurent. C'est un livre audio lu chez Vues et Voix par l'ami Jacques Tremblay. Alors, Monsieur Payette va répondre à nos questions de Québec, donc ça va se faire par téléphone dans la première partie de cette émission. Et puis, en seconde partie, nous irons à Toronto pour nous entretenir avec Faline Beaubier qui nous présente quelques livres accessibles aux personnes non-voyantes via KM. Et j'ai moi-même des nouvelles qui concernent le livre audio et surtout des nouveautés à vous faire entendre. Je suis Clotilde Say, je vous invite, tiens, à plonger tout de suite dans l'univers du livre audio et surtout à sonder les profondeurs en vous souvenant peut-être de ce film allemand mémorable qui s'appelle « Das Boot ».
Machen Sie Fotos von einlaufender Besatzung, nicht von auslaufender.
Wieso das?
Weil Sie dann Werte haben.
Herzlich willkommen, Herr Kapitän Albert.
Na, Männer. Alles klar?
Jawohl, Herr Kapitän!
L'un des deux hommes assis à la table d'à côté s'est presque étouffé. Kevin les observe discrètement. Le plus costaud porte un chapeau de feutre noir rabattu sur les yeux et l'autre un chapeau gris. Ils ont le buste incliné l'un vers l'autre comme s'ils s'échangeaient des confidences. Le premier tient solidement la bouteille d'une main et de l'autre il se couvre la bouche. Ils sont visiblement absorbés par leur conversation. « Sans doute des hommes d'affaires », se dit Kevin qui tente de deviner d'où vient leur étrange accent. Sa curiosité éveillée, il ne peut s'empêcher de les écouter attentivement.
Il va arriver près des côtes. Le sous-marin va juste faire du repérage et surveiller la circulation des bateaux,
chuchote le plus costaud.
On va les faire débarquer de nuit pour qu'ils passent inaperçus,
ajoute nerveusement le deuxième lascar.
Il vaut mieux ne pas éveiller les soupçons, et tant qu'ils n'auront pas regagné la ville de Matane, l'opération est risquée, il ne faut surtout pas commettre d'imprudence. » lui répond l'autre. Kevin sursaute en entendant le mot Matane, cette ville côtière en réalité la porte d'entrée de la Gaspésie, avec son port de pêche et ses chalutiers, et si réputée pour la pêche aux crevettes. C'est là qu'habite son grand ami, Denis Brabant, pêcheur de son métier.
Ça, c'est le début, c'est un extrait du tout début du livre de Normand Payette, Les surveillants du fleuve. Normand Payette qui doit être au bout du fil. Bonjour, Monsieur Payette.
Bonjour, Madame Seize.
Alors, Monsieur Payette, vous avez donc rédigé ce livre, Les surveillants du fleuve. On parle ici, bon, on est avant, juste avant la Seconde Guerre mondiale, on est en 1939. Il y a une chose qu'on redoute énormément sur les côtes du fleuve Saint-Laurent, c'est une invasion de sous-marins allemands, et on a eu raison de redouter parce qu'invasion il y a eu. D'abord, qui étaient les surveillants du fleuve?
Les surveillants du fleuve, disons que je pourrais vous dire un petit peu tout le monde, mais je vais vous résumer ça d'une autre façon. J'ai créé un genre d'association entre les pêcheurs,
oui,
les gardiens de phare, et les pilotes de la corporation du Saint-Laurent, qui sont les pilotes, vous savez, aux Escoumins, quand on change de pilote, lorsqu'un pays, un navire étranger arrive, on change de pilote à cause des dangers du Saint-Laurent.
Oui, parce que c'est un des fleuves les plus difficiles à naviguer. D'ailleurs, c'est une de mes questions après,
oui,
par rapport aux sous-marins. Ça ne devait,
oui,
pas être évident de naviguer en sous-marin dans les eaux noires du Saint-Laurent.
Que les sous-marins, où ils ont fait les torpillages, mm-hmm, c'est un territoire sans trop de problèmes pour eux autres.
Oui.
Parce que s'ils rentrent à l'intérieur du fleuve, tu sais, quand vous arrivez près de Québec, on est rendu à peu près 3 kilomètres de large.
Oui.
Tandis que si vous regardez la distance juste entre Matane et Godbout, vous avez peut-être 60 kilomètres.
Oui.
Alors, un sous-marin peut arriver et s'échapper, repartir facilement.
Alors, votre histoire, je tiens à le préciser, c'est d'abord et avant tout un roman, mais qui est émaillé de faits réels. Hein?
Tous les faits historiques à l'intérieur du livre sont réels.
Et ils sont nombreux. C'est assez incroyable. Ils sont d'une précision.
Ben, c'est ce que je voulais. Même
ben oui.
C'est que moi, ce que je voulais dans nos gens, c'est de l'information, parce que c'est un passage du Québec qui est méconnu au Québec.
Comment
alors,
ça se fait, ça?
J'ai voulu agrémenter les surveillants du fleuve, toutes les actions de sous-marins, mm-hmm, avec des personnages aussi.
Oui.
Alors, pour continuer à ce qu'on revenait tout à l'heure concernant,
oui,
qui sont les surveillants du fleuve,
oui,
les riverains l'étaient aussi parce qu'ils avaient,
oui,
tellement peur.
Bien sûr.
Ils avaient passé deux lois dans le temps. Il y en a une qui était la loi de l'obscurcissement et l'autre était la loi de la terre brûlée, que si vous voyez des Allemands, brûlez vos maisons. Si vous voulez débarquer, brûlez vos maisons, brûlez vos champs, vos granges, n'importe quoi. Puis les Allemands l'étaient, des surveillants du fleuve. Eux autres, ils étaient là, contraire à nous. Nous, on avait peur d'eux autres, mais eux étaient là pour torpiller les bateaux.
Comme les deux Allemands, par exemple, qu'on voit sur cette terrasse dont on a entendu un extrait, là,
oui,
effectivement.
Bon,
alors c'est, on a développé une véritable hantise au Québec. On a eu peur de ces sous-marins lorsque la guerre a déclaré, et ils ne sont arrivés qu'en 1942. Hein, si
exactement.
Mais, bon, exactement. Du moins, si votre livre est exact, parce que c'est
non,
là
regardez,
que j'ai...
Si vous regardez sur la couverture,
oui,
de mon livre,
oui,
j'essaye de suivre les années de guerre, 1939-45.
Oui, oui, là, c'est ça.
Si vous regardez, c'est marqué 1937-45. La raison que je commence en 1937,
hein,
c'est que je voulais laisser savoir au lecteur que l'Allemagne, cette année-là, a voulu acheter l'île d'Anticosti.
Alors, pourquoi? Parce que ça, c'était une question.
Ben,
quel était l'enjeu?
Leur prétexte, ouais, quand ils sont venus ici, ils étaient 13. 13 conseillers supposés forestiers, mais ils étaient des conseillers militaires. Alors, ces gens-là sont venus ici, leur prétexte était de prendre le bois de l'île et de l'envoyer en Allemagne. Mais leur prétexte était dans le but de contrôler les entrées et sorties de bateaux qui arrivaient de l'océan Atlantique, le Golfe, s'en allaient dans le fleuve.
Et qui faisait qu'effectivement, on pouvait redouter à ce moment-là que des navires comme des sous-marins puissent envahir le Québec par le Saint-Laurent, quoi.
Exactement. Exactement. Alors, mais le but du torpillage des sous-marins, madame, c'est que les Allemands voulaient couper les vives à nos alliés en Angleterre.
Voilà.
Ils ont torpillé des bateaux de ravitaillement qui allaient aider nos alliés en Europe. C'était leur but, eux autres.
Mais ils ont torpillé pire que ça. À un moment donné, ils ont même torpillé un traversier, même.
Oui, oui, exactement. Ça, c'est une erreur qui s'est passée à un moment donné. Ça, c'était
Quelle erreur?
Le SS Caribou.
Ouais.
Qui traversait, si vous voulez, le Cap Breton de Nouvelle-Écosse, qui s'en allait à Terre-Neuve, à Port-au-Basque. Mais il était torpillé à peu près 20 000, je le mets en 1000 parce que dans ces années-là, on n'était pas en kilomètre. Là.
Non, c'est sûr.
Mais on était à 20 000 d'arriver à Port-au-Basque. Alors, mais ce qui est arrivé, Mme Cyr, c'est que les deux premiers bateaux qui ont été torpillés, le premier qui était le 11 mai 1942, qui était vers 11 heures du soir, puis l'autre qui est marqué le 12, mais quand je vous dis le 12, mettons autour de peut-être 1h30, 2 heures du matin, alors qui fait qu'aussitôt que ces deux bateaux-là ont été torpillés, le gouvernement canadien a défendu à tous les médias du temps, qui étaient la radio et les journaux, de ne jamais plus diffuser aucune information concernant les attaques de sous-marins. Et la raison était, d'après ce qu'on sait, c'est qu'on ne voulait pas apeurer la population, on ne voulait pas donner d'informations aux Allemands s'ils étaient sur écoute quelconque. Et en même temps, le territoire là-bas, c'est tellement grand, à savoir, est-ce que la technologie est assez bonne pour essayer de repérer ces sous-marins-là? C'était pas évident. Alors, c'était à peu près les raisons qui ont été évoquées, si vous voulez, par la suite concernant ça. Mais lorsque vous mentionnez le SS Caribou qui s'est fait torpiller, bien, il y a eu 136 morts, 101 survivants. Mais là, ça a été une traînée de poudre. Là, ça a fait le tour du monde. Alors, le gouvernement canadien, à ce moment-là, ne pouvait plus empêcher l'information concernant les attaques de sous-marins.
Oui. Alors, vous êtes très précis. Hein? Je vois en page 360, on est vraiment au cœur d'une bataille navale qui se situe un peu donc dans l'ouverture de l'estuaire entre Godbout et la Gaspésie.
Oui.
Hein, en gros, et il y a même une carte, hein, je le précise. Oui. Plus que ça, il y a un tableau avec, et là, vous donnez exactement à quel endroit, longitude, latitude.
Oui.
Et en tout, ce sont combien de bateaux qui ont été torpillés par les...
Il y a eu 29 bateaux.
Ça représente combien de décès, ça, monsieur?
Si on regarde au niveau des décès, je pense que ça n'a pas dépassé 500. Je pense que c'était entre 300 et 400 personnes.
Oui, mais enfin, c'est énorme quand même.
Pour l'ensemble des torpillages.
Ouais. Bon.
Parce que vous aviez des bateaux, il y avait peut-être, je ne sais pas, mais peut-être 25 marins, peut-être à bord, 25. Il y en avait, le Caribou, lui, il y en avait, c'est lui qui en avait le plus, il y en avait 136 morts.
C'est terrible.
Il y avait beaucoup de monde.
Ouais.
Et les autres, là... Je vais vous donner un chiffre exact, là. Il faudrait que je refouille un petit peu dans
les... Non, mais je vous en prie. Mais il y a un chiffre.
Le tableau que j'ai fait, madame, c'était tout simplement pour résumer ce que je parle à l'intérieur du livre.
Ben oui,
alors,
bien
en ayant ça, en ayant les dates que c'est arrivé, le nom des bateaux, les capitaines, l'endroit qui a été torpillé, la nationalité des bateaux et longitude, latitude, tout ça, j'ai fait vérifier ça par la marine canadienne.
Quel boulot.
J'étais tellement content que... Mais concernant les longitudes, latitudes, c'est le gouvernement, c'est le Musée naval de Québec qui a transféré
qui vous a donné
toutes ces informations-là sans que je leur demande.
Eh bien, merci beaucoup. Il y a un chiffre qui nous parle beaucoup et qui parlera certainement à des gens qui ont connu cette époque-là. C'est le chiffre 517, puisque le célèbre U-boat
517,
il a été la terreur du
Saint-Laurent. Le commandant Paul Hartwig, il en a torpillé 9, je pense, juste lui.
Juste lui. Et lui, un jour, il a coulé, lui, finalement.
Oui.
Il a été coulé en Atlantique, dites-vous dans le bouquin.
Je pense, près des côtes d'Angleterre, puis il n'y a pas personne de mort. Il était torpillé, il a été coulé, le sous-marin, mais je pense que tout le monde a survécu à l'attaque.
Oui.
Assez qu'ils ont été capables de... Ils ont remonté à surface. D'après ce que j'ai lu, là, ce que j'ai mentionné, le commandant est sorti vivant.
Ah, en effet. Et alors, vous expliquez, parce que comme je le dis, bon, dans ce livre-là aussi, il y a l'aspect romance, il y a même de l'amour, il y a même un peu de sexe, il y a de l'espionnage, et en tout cas... Non, mais c'est vraiment un bouquin très agréable à lire pour ça, parce que c'est pas juste l'histoire, même si moi, je vous avouerai que ce qui m'a passionné le plus, c'est l'histoire. Ce sont les recherches historiques, et notamment... Vous nous expliquez même ce qu'est un U-boat, de quoi étaient faits ces sous-marins allemands-là. Je faisais référence, avant qu'on se parle, au film Das Boot, un film très très célèbre évidemment, et j'ai fait écouter un petit bout de la bande-annonce, mais les sous-marins allemands, là, ils étaient drôlement équipés à l'époque.
Oui. Les sous-marins allemands pouvaient faire, je pense, que 5000 kilomètres. Sans arrêter.
Par sans exemple, arrêter. Sans autonomie de 5000
kilomètres. Oui, 5000
kilomètres,
oui. Ben, je parle aussi, j'explique comment est constitué un convoi, parce que ce que les sous-marins allemands faisaient, d'abord, tous les sous-marins allemands, toutes les attaques qui ont été faites ont été sur les ordres de l'amiral Karl Dönitz. Karl Dönitz, là, avant de torpiller un bateau, tout le monde, les capitaines, fallait qu'il l'appelle. Alors, c'est lui qui donnait l'ordre de le torpiller. Mm-hmm. Puis quand c'était un gros convoi, il envoyait plusieurs sous-marins, pouvait être 3, 4, 5 peut-être, puis il appelait ça sa meute de loups. Alors, vous savez, j'ai expliqué un petit peu dans le livre qu'est-ce qu'un convoi, comment est constitué le convoi. Alors, mettons un exemple que s'il y a une centaine de bateaux, mettons, dans le milieu, vous allez avoir, on va avoir tout ce qui est les produits dangereux. On peut avoir les armes, on peut avoir les obus, tout l'armement. Après ça, vous pouvez avoir du matériel en vrac, des minéraux. Vous pouvez avoir après ça de la nourriture, des vêtements. Puis après ça, vous aviez les bateaux de guerre, si vous voulez, les destroyers. Puis les chasseurs de mines qui sont à côté, en arrière. Puis vous avez le bateau amiral en avant. Alors, quand les sous-marins arrivent, c'est ceux qui essaient de viser, ils veulent aller viser le centre, surtout pour les bateaux qui apportent des éléments qui peuvent
essentiels, vitaux.
Détruire les autres mines.
Oui, je comprends.
Alors,
c'est simplement
que le vrac et les aliments vont protéger, si vous voulez, le cœur du convoi.
Alors, le début de la guerre, et vous en parlez très bien en page 205, le 3 septembre 1939, mais pas seulement à l'extérieur, mais même à Matane aussi. Parce que cette journée-là, il y a une explosion, il y a un incendie.
Oui, c'est-à-dire qu'un de mes personnages organise, lui... comme on dit, ça peut être long qu'il a su que lui, la guerre était déclarée. Alors, avec ses acolytes, si vous voulez, pour créer du dommage, en fait, ça, si vous voulez, c'est la partie romancée.
Un peu plus romancée, mais est-ce que vous avez eu l'occasion, parce que j'imagine qu'écrire un livre pareil, ça s'étale sur des années.
Ça m'a pris 3-4 ans.
Bon, et des gens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, bon, c'est sûr qu'adulte, à l'époque, il ne doit plus en rester énormément, mais est-ce que vous auriez pu obtenir, ou est-ce que vous avez obtenu parfois des témoignages de gens qui, par exemple, parce qu'on voit que ce soit à Matane, que ce soit sur l'île d'Orléans,
des gens que j'ai rencontrés qui me disaient, mon père m'a déjà compté, ma mère m'a déjà compté.
Ça. Ouais.
C'est pas des gens qui l'ont vécu.
Non, mais vous avez eu des témoignages.
J'ai rencontré deux personnes, je pense que c'est au début d'octobre. Une dame qui avait acheté mon livre, et puis à un moment donné, elle m'a téléphoné, puis elle me dit, « Macha, vous rencontrez. » Je dis, « Mon mari et moi, mon mari, il a 85 ans. » Il était un Hollandais, il a vécu l'invasion des Allemands, la reddition de la Hollande. Puis un de ses amis à lui qui est ici, qui a 89 ans, venait prendre un café à la maison.
Wow.
Le lendemain, je me suis rendu, celui qui était allemand, à 89 ans, il dit, moi, quand la guerre est arrivée, j'étais dans les jeunesses hitlériennes.
Oh!
Il était dans la... Tu sais,
les jeunesses hitlériennes, là,
Les habillés en brun, là.
Oui, absolument, oui.
C'était des fanatiques, en tout cas, j'étais invité pour un café à 10 heures, je suis reparti à 2-3 heures d'après-midi.
Incroyable.
Alors, mais là, je suis en train de faire une suite à mon livre. Alors, avec ces gens-là, on doit se rencontrer. Je lui donne, ils vont lire mon livre. C'est-à-dire, ils vont peut-être finir, mais je dois les rencontrer éventuellement. Ils vont me donner de l'information que je vais mettre dans une suite, si vous voulez.
OK.
Il y a une suite qui est déjà avancée. Je suis à peu près à la moitié de fait.
OK. Alors, mais sur quel thème, à ce moment-là? Pardon? Je dis sur quel thème, monsieur, ben, monsieur Payette?
C'est la même chose, c'est le sous-titre que je n'ai pas trouvé encore. Voyez-vous, moi, mon livre, c'est « Les surveillants du fleuve » et j'ai comme sous-titre « L'incursion des Allemands sur le Saint-Laurent, 1937-45 ».
Oui, oui.
Mais là, pour vous faire rire, je sais quelle va être ma page couverture.
Oui.
Je sais comment le livre va finir. Mais je n'ai pas trouvé encore mon sous-titre.
J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout seul. Hein?
Madame Seil, oui. Quand je l'ai fait, celui que vous avez en main,
oui.
Je vous dirais qu'en dedans, peut-être dans mes 20 à 50 premières pages, j'avais déjà trouvé mon titre.
Ah oui, hein? Ben
ah,
oui.
J'étais parti, là. Ce qui est important pour moi, voyez-vous, là, quand vous avez mentionné à l'introduction, c'est que vous avez lu la lecture du livre, là.
Oui, oui, oui.
C'est important pour moi de capter l'attention des gens par les sous-marins. Alors, c'est pour ça que je commence en voyant qu'un de ses amis reste à Matane, puis après ça, les sous-marins vont arriver. Alors, ça crée de l'intérêt, si vous voulez, avec les personnages et avec l'histoire qui va suivre.
Ah oui.
Alors, parce que quand je parle des attaques de sous-marins, comme vous voyez, c'est plus vers la fin, parce que je suis les années de guerre. On arrive en 1942. Alors, mais il y a tout ça... Avant d'y arriver à 42, il y a toutes sortes de petites notes historiques que je positionne.
Et monsieur Payette, je voulais vraiment vous remercier parce que je suis moi une fanatique hein, de la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai que j'ignorais, j'avais déjà entendu parler d'invasion, mais je pensais que c'était un bateau ou deux, quoi, mais que je pensais pas que c'était à ce point-là. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des épaves un peu partout, au fond du Saint-Laurent.
Si je me fie aux longitudes, latitudes, si on y va avec une cape marine, puis on va exactement au numéro, je n'ai pas le terme pour ces choses-là, là. Si on va, c'est qu'en suivant cette carte-là, il y a des possibilités.
La position,
À date, il y a déjà des épaves qui ont déjà été retrouvées.
Ah oui, sûrement.
Mais probablement qu'il n'y en a pas qui n'ont pas sorti de l'eau encore.
Oui.
Pas à ma connaissance.
En tout cas, il y a beaucoup de choses comme ça sur qu'on découvre. Hein. Moi, assez récemment, dans un livre, on faisait état de camps de concentration aussi qui ont existé sur notre territoire.
Oui, d'ailleurs, il y a eu 35 000, à la demande de l'Angleterre, de nos alliés, ils ont demandé de prendre des Allemands, des incarcérés ici chez nous.
Oui.
On a eu, je pense, 7 camps d'internement. Sur les plaines d'Abraham, vous aviez Coverfield, où on a reçu des Allemands-là. À l'île Sainte-Hélène, sur le pont Jacques-Cartier, vous aviez surtout des Italiens qui étaient là, des Allemands...
Bref, ça pourrait faire l'objet d'un autre livre, ça, M. Payette. Je vais être obligé de vous laisser.
Il y a tellement de choses qu'on peut jaser.
Mais oui. Alors, on va vous laisser.
Ce qui est intéressant, avec des faits historiques, c'est de créer des personnages alentours pour le rendre encore peut-être plus intéressant.
Exactement. Et c'est ce que vous avez fait avec Les Surveillants du Fleuve. Je rappelle que c'est écrit par Normand Payette, que c'est lu par M. Jacques Tremblay, que c'est disponible sur Vues et Voix, livre audio.vuesetvoix.com. Normand, il faut vraiment qu'on se laisse. Et j'ai envie qu'on se laisse avec ce tube en trois dimensions. Qui était Yellow Submarine et qui en français est devenu le sous-marin vert. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.
Au revoir.
Au plaisir.
Nous avions tous le même âge, les mêmes joies. Quand un jour, dans le village, un vieil homme nous raconta son séjour. Au fond des mers, dans un beau sous-marin vert, aussitôt, sans un adieu, comme de vrais marins courageux.
Nous partions dans un beau sous-marin vert. Nous avions
mémoire, toujours prête au bon moment.
Monsieur Maurice Chevalier, les compagnons de la chanson et puis évidemment la version originale des Beatles avec Yellow Submarine et le sous-marin vert juste avant. En ce qui concerne les compagnons de la chanson, j'ai vu que Fred Mella était décédé récemment. Fred Mella, c'était le... Quand j'étais petite, je l'appelais le prétentieux parce que c'était lui qui chantait tout seul. Alors que c'était un être absolument délicieux, Fred Mella, tout le monde en parlait toujours avec grand bonheur. Je pense que s'il était le dernier des compagnons de la chanson à rester en vie, j'aurais peut-être dû vérifier avant de vous dire ça, mais me semble-t-il en tout cas. Alors voilà pour cette première demi-heure et ce livre de Normand Payette, Les surveillants du fleuve. Je rappelle que vous écoutez... l'émission des livres plein les oreilles. C'est Clotilde Seille qui est au micro en votre compagnie. On va se retrouver dans la seconde demi-heure avec plein de suggestions de livres à vous glisser entre les oreilles que nous avons à vous faire. Quand je dis nous, c'est Faline Bobier de Caeb et moi-même parce que j'en lis, j'en écoute, je m'informe pour vous présenter cette émission à chaque semaine. Alors restez des nôtres. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. C'est l'heure des suggestions de lecture qui s'écoutent, lecture qui s'écoute à vous faire, grâce notamment à Faline Bobier qui n'oublie pas à chaque trois semaines à peu près de vous faire des recommandations issues de CAEB et qui vous propose ainsi des livres lus par des bénévoles au service des personnes à visibilité réduite. Ce qui me permet de vous dire que les livres audio sont désormais accessibles à tous. Les oreilles. Je parle des livres audio commerciaux, ceux que nous enregistrons notamment chez Vues et Voix. Ils sont disponibles à toutes les oreilles via le service de prêt de votre bibliothèque. Il suffit de vous y inscrire. Peut-être pouvez-vous vous faire aider si vous ne le pouvez pas pour le téléchargement de ces livres-là, mais ils sont disponibles tout à fait gratuitement, comme le sont les livres sur papier. Alors pourquoi ne pas en profiter? Alors pour prendre le temps de contacter Faline Bobby à Toronto, on va démarrer cette demi-heure en musique.
Puisque rien n'est grave, puisque tout va bien, puisque la pluie lave même nos chagrins, puisque nos douleurs, on s'en fait des moufles, puisqu'on aimera, je jusqu'au dernier souffle. Même pas peur, 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 même pas peur. Puisque tout est pur, comme ce ciel de traîne, repeint par l'azur d'un bleu méthylène. Qu'on a l'ivresse, l'amour, la beauté, l'éternelle jeunesse, la félicité. Même pas peur, 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 même pas peur. Puisque le bonheur, c'est pas pour les chiens, puisque nos erreurs nous grandissent enfin, puisque la misère du monde, on saura comment faut se la faire avec nos petits bras. Même pas peur, 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 même pas peur. Puisqu'aura l'ultime, on dansera encore au bord de l'abîme en défiant la mort. Puisqu'aura l'ultime, on dansera encore. On dansera encore, on dansera encore, encore, encore. On dansera encore, encore, encore. Même pas peur.
Elle s'appelle Clarica et le titre de la chanson, je vous le donne en mille, Même pas peur. Bonjour Faline Beaubier.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, je vous remercie beaucoup Faline. Alors bien, Faline, on redémarre pour une première chronique en 2020 ensemble. Comme je voudrais que vous nous reprécisiez peut-être pour les gens, vous savez qu'on a toutes les semaines de nouveaux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore CAEB.
OK, très bien. Donc, le CAEB, c'est vraiment le service de bibliothèque pour les personnes qui ont de la difficulté à lire les imprimés. Mm-hmm. Donc, ça peut être problème visuel, troubles d'apprentissage.
Oui, 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 oui.
Ou incapacité de tenir un livre. Donc, c'est un service gratuit. Tout ce qu'il faut, c'est avoir une carte de bibliothèque publique ou au Québec, c'est la carte de la Bibliothèque et Archives nationales. Pour s'inscrire pour le service.
Voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'on peut disposer hein, de livres numériques. Et également, comme je le disais en ouverture à cette émission, Faline, de livres audio aussi. De la même façon, on peut se procurer maintenant les livres audio qui sont enregistrés, entre autres ici, chez Vues et Voix. Alors, pour l'instant, revenons à CAEB. Je voudrais que vous nous parliez, entre autres, de Emma dans la nuit, de Wendy Walker.
Ah, OK. Donc, c'est un livre que moi, j'ai bien aimé, mais c'est parce que c'est peut-être un peu... Excusez-moi, j'ai la voix un peu rauque. Aujourd'hui, je suis un peu enrhumée.
Mais on vous comprend très bien, Faline. Il n'y a pas de problème.
Alors, c'est un roman policier, ou plutôt peut-être un thriller psychologique. Mm-hmm. Donc, Walker, c'est un ancien avocat, comme il y en a plusieurs, comme John Grisham, qui est devenu écrivain. Donc, l'histoire, c'est... deux sœurs qui disparaissent et les 3 ans plus tard, il y a une seule qui revient. Alors, est-ce qu'elle dit toute la vérité? Donc, c'est Emma, 17 ans, Cassandra, 15 ans, les sœurs Tanner, qui sont devenues tragiquement célèbres depuis leur inexplicable disparition. Donc, après 3 ans d'absence, c'est Cassandra qui frappe à la porte de chez ses parents. Elle est seule. Elle raconte comment sa sœur et elle ont été victimes d'un enlèvement, puis retenues captives sur une mystérieuse île. Et évidemment, Emma y serait toujours. Donc, le récit, c'est vraiment structuré en 2 points de vue. C'est à la première personne, on entre dans la tête de Cassandra qui nous relate sa version de sa disparition. Et on suit en parallèle les investigations de la psychiatre de la police qui cherche à retracer ce qui s'est vraiment passé. Donc, on comprend, plus qu'on lit, on comprend que la famille Tanner cache des faits et ne dit pas tout. Mmh. Donc, notre suspicion passe un peu alors de personnage en personnage. Donc,
je comprends. J'ai un petit extrait, moi. On écoute ensemble. C'est parti.
Oui.
Les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Les gens croient ce qu'ils ont besoin de croire. Peut-être n'y a-t-il aucune différence entre les deux. Une chose est sûre, la vérité peut nous échapper. Se dissimuler dans notre angle mort, être masqué par nos préjugés, ignoré par nos cœurs affamés qui aspirent à la paix. Pourtant, elle est là. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder. Encore faut-il faire l'effort de regarder. Il y a 3 ans, lorsque nous avons disparu, ma sœur et moi, personne n'a rien vu. On a retrouvé la voiture d'Emma à la plage. Son sac à main était à l'intérieur, sur le siège côté conducteur. Ses clés étaient dans le sac. On a repêché ses chaussures dans l'eau, ballottées par le ressac. Certains ont cru qu'elle avait rendez-vous avec une ou plusieurs personnes qui n'étaient jamais venues. Elle était allée se baigner et s'était noyée. Peut-être était-ce un accident, peut-être un suicide. En tout cas, pour eux, Emma était morte.
Il me semble reconnaître la voix d'une jeune femme qu'on connaît bien à Canalet, mais qui est Annick Filion pour ce livre « Emma dans la nuit » de Wendy Walker. Parlez-nous maintenant de la suite argentine de Laure Bouvier.
Alors, c'est un peu un changement de style.
Oui,
c'est
complètement.
Alors, c'est un roman québécois. L'écrivaine, c'est Laure Bouvier. Donc, c'est un peu le pèlerinage du personnage principal qui s'appelle Élise Paradis. Je pense que le nom a été choisi. et donc, c'est vraiment, c'est l'histoire d'une femme qui tente une sorte de renaissance après la mort de son mari. Donc, veuve, elle fait le grand saut de Montréal et elle part pour l'Argentine où elle dit « la forêt brûle et puis renaît ». Donc, mais malheureusement, le voyage, ça n'aide pas vraiment. Elle revient à Montréal et elle décide de s'installer à la campagne dans la maison de sa grand-mère devant le fleuve. Et donc, pour la première fois depuis la mort de son mari, on a l'impression qu'il y a un début de sérénité qui semble enfin s'installer un peu dans son cœur. Mais malheureusement, c'est bientôt brisé par des coups durs qui soudain s'abattent sur elle. Donc, de nouveau, elle va s'enfuir, cette fois-ci à Manhattan, en compagnie d'un peintre argentin et d'un artiste à tout faire irlandais. Alors, ça va former un peu un surprenant trio.
Trio.
Donc, c'est vraiment... son voyage pour essayer de qu'est-ce qu'on dit
de renaître de revenir
de
à la vie. Voilà.
Ouais.
J'ai un extrait pour vous à ce moment-là, donc c'est assez au début du livre, elle est en Argentine et elle nous fait découvrir certains traits spécifiques des Argentins.
Le plus curieux est de voir les Argentins se promener avec une bouteille thermos à la main, le jour comme le soir. C'est pour y conserver l'eau chaude qui sert à arroser leur maté, la boisson nationale argentine faite d'herbes que l'on dépose dans un petit vase en argent ou en terre cuite, qu'on se passe de bouche en bouche, un peu comme un calumet de paix, et que l'on sape à l'aide d'un bombilla, une sorte de chalumeau souvent aussi en argent. J'y ai goûté. Je ne suis pas devenue une aficionada. Autre habitude de ce coin de pays, on n'entre pas chez vous comme dans un moulin. On frappe dans ses mains devant le portail pour signaler sa présence. Libre à vous de donner signe de vie ou pas.
C'est quand même fou ça comme coutume. Hein bon. Alors Faline, une petite dernière, un petit dernier livre, pièce d'identité, banc d'essai par Jean Paré.
Alors oui, donc c'est un livre documentaire. Je suppose que tout le monde connaît Jean Paré.
Jean Paré, bien sûr.
Oui, alors ancien critique littéraire et de cinéma pour la presse, chef du magazine Maclean, rédacteur en chef, directeur de 25 ans du magazine L'Actualité. Mm-hmm. Donc évidemment, c'est quelqu'un de très accompli.
C'est une sommité dans le milieu des médias écrits ici, quoi,
ouais,
c'est sûr.
C'est
voilà.
Ça. Donc, je dirais, cet essai ou ces essais ne sont pas vraiment, c'est pas une biographie,
non.
Mais c'est plutôt le produit d'une expérience variée, profonde des médias, un appétit insatiable pour les livres, la grande musique, la vie.
Oui.
Et on retrouve un peu, parce que c'est vraiment un tour du siècle. C'est quelqu'un, je pense qu'il est maintenant, il est âgé de 82 ans à peu près.
Oui, oui.
Alors, l'avantage de l'âge, où on dit que c'est l'avantage de l'âge, c'est qu'on est rendu à un certain âge, on a eu le temps d'expérimenter, de lire, on n'a plus de position sociale à défendre. Mm-hmm. Alors, on peut y aller un peu en disant la vérité ou au moins sa vérité.
Ouais, ouais, ouais.
Et je pense que c'est ça qu'on retrouve dans ces essais. C'est vraiment un caractère de vérité.
Pareil, qui entre autres, hein, qui nous dit dans ce livre-là que si à un moment donné, il partait sur une île déserte, lui, musicalement, ce qu'il amènerait avec lui, c'est toute l'œuvre de Beethoven. Un extrait.
Ouais.
Chez moi, le soleil semble se lever un peu n'importe où sur l'horizon plat, qui court à l'est. Mais à l'ouest, il trouve chaque soir une place précise. Du solstice de juin à celui de décembre, il campe de jour en jour sur un créneau différent, dans le feston des montagnes. Un rien quotidien plus au sud. Quelques jours avant Noël, il repart en sens inverse, marquant d'un cran chaque avancée de la nouvelle année. Le 20 mars précisément, il plonge franc ouest derrière le cône parfait du plus haut sommet. On n'aurait pas de calendrier que l'on saurait le printemps venu. Puis il continue vers le nord, de plus en plus lentement, jusqu'au bout de juin et des Appalaches, avant de repartir tout aussi insensiblement d'où il vient, comme un grand balancier lumineux. Les anciens n'ont pu manquer d'être frappés par cette régularité.
Beethoven, quand tu nous tiens. Jean Paré qui en a vu à 82 ans des levées de soleil, hein, Faline.
Oui.
Alors, Faline Bobier de Caeb, merci beaucoup pour cette première chronique de l'année 2020 avec nous. Il y en aura bien d'autres et bien d'autres livres que vous nous ferez découvrir. Merci, Faline.
Merci beaucoup. J'aime beaucoup ces causeries. merci beaucoup.
Oh, mais je vous en prie, Faline. C'est partagé par tout le monde.
Ok, très bien.
Et on reste avec Beethoven et Anne Sylvestre.
La la la, la la la. La la la, la 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 la. Ma voisine ne sait jouer que ça, gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir il n'y en a, la la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon,
temps que tu entends ça. Gna gna gna, gna gna gna. Est-ce que ça ne te saoule pas? La la la, la la la. Mais qui était cette Élise qui défrise nos pianos, qui sans fin se gargarise et se grise de trémolo? Dis Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là? Est-ce qu'à ton Élise tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix? La la la, la la la. Comment croire qu'Élise écoutait sans arrêt, ce machin qui vraiment ne me fait pas marrer, pas marrer. Oui, mais Élise, elle aimait ça, qu'on lui redise blablabla. Bla, pourquoi écrire avec un piano, les petits marteaux, les petits marteaux? Quand c'est si simple avec un stylo, et puis des mots, rien que des mots. Mais cette garce d'Élise traumatise le bon Ludwig, s'il envoie ses grosses bises, et le nez veut en musique. Ah, si seulement elle avait pu se taper le facteur, on n'aurait pas eu à se farcir tous ces doubles soupirs et tous ces ne m'oubliez pas. Ah, ah, s'il avait pensé à lui téléphoner, on n'aurait pas écopé ça. La la la. Chaque jour à l'heure du courrier, et allez, il faut qu'elle vienne massacrer, et taper, et tamponner. Mes chères Élise, il serait bon que vous accusiez réception. Qui sait, mais si vous lui répondiez par courrier recommandé, elle pourrait apprendre par cœur, enfin le guet laboureur. Je sais que je m'en lasserai, mais ça là là, mais ça là là, mais ça me changerait.
Que c'est délicieux, la lettre à Élise, signée évidemment musique de Beethoven, sur un texte d'Anne Sylvestre qu'on entendait. Quelques nouvelles maintenant en ce qui concerne le livre audio des prisonniers qui lisent et enregistrent des livres pour leurs enfants. C'est signé Victor de Saupecy. J'ai trouvé ça dans l'actualité. Il écrit qu'au cœur du conflit en Irak, certains soldats s'étaient vus offrir de pouvoir enregistrer un livre dont la lecture serait alors transmise à leur progéniture bien lointaine. Mais, en période de fête, comment pousser du pied ce genre d'initiative en mesure de rapprocher les familles? Eh bien, à Montauban, en France, c'est à la prison que l'idée a fait recette. Le journal La Dépêche raconte ainsi que, avec l'aide de l'association Confluence, les détenus ont pu, au sein de la salle socio-culturelle, réaliser des jaquettes de livres audio pour leurs enfants après les avoir enregistrés eux-mêmes. Le projet a été financé par la Direction régionale des affaires culturelles et le SPIP, et on verra ainsi ces audiolivres ainsi que les versions papier qui seront offertes aux enfants des détenus. Pour certains, c'est le début d'une alternative. Pour Brianne, par exemple, dont le fils a 2 ans, c'est un inédit. Il nous dit « C'est la première fois que je lui lis une histoire. À ma sortie, je lui ferai régulièrement la lecture parce que c'est pur bonheur. » Je me suis dit « Oh, quelle bonne idée, ça pourrait être chez nous aussi. » Alors, quelques nouveautés audio. Chez Audiolib, je voudrais vous présenter Insectes ou, plus exactement, un, entre guillemets au bout, E, donc une secte ou un secte de Maxime Chatham. Le résumé du livre, on nous dit « Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux et à s'organiser ?» Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Moi qui redoute les insectes pour mourir, malheureusement, je ne pense pas que je puisse et ni lire ni écouter ce livre. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Cordell vont s'entremêler et les confronter à une vérité effrayante, c'est le moins qu'on puisse dire. Des montagnes de Los Angeles au bas-fond de New York, un thriller implacable et très documenté qui va vous démanger, nous dit-on. C'est sorti le 27 novembre de l'an dernier. Au départ, c'est chez Albin Michel et la durée, c'est quand même 13 heures de bouquin. 13 heures à souffrir avec des insectes. Un extrait.
Il en a sur lui ? Demanda-t-il. Des insectes ? Malkovian pivota pour le dévisager par-dessus ses lunettes fines. Couronne diaphane de cheveux sous un crâne lisse, sourcils hirsutes, le légiste n'avait rien d'aimable.
Gore, j'imagine que vous êtes là à cause de votre formation. Va falloir tout ramasser. Un sacré merdier. Il y en a partout. Dans les manches, sous la chemise aussi, j'en ai aperçu. J'avoue que je n'y comprends rien. »
À ces mots, la vue sur le cadavre s'était dégagée et Atticus demeura circonspect de longues secondes. Dans les éclairs des flashs, il vit, souligné par sa propre lampe, la mâchoire osseuse, béante sur les longues dents. L'absence de nez, juste une double cavité oblongue. Les pommettes, projetant leur ombre en direction des orbites vides. Une tempête de cheveux roux coiffait bizarrement le haut du front blafard, puis Atticus comprit qu'il avait dû être blond avant. Le sang les avait poissés en tous sens, les figeant après la bataille dans un mouvement presque grotesque, comme une perruque mal ajustée. L'horreur, la tragédie et le ridicule de la mort entremêlés.
Et puis j'avais aussi envie de vous parler d'un autre livre, cette fois-ci sorti dans la collection Écoutez lire de chez Gallimard. Ça s'appelle Encre sympathique et c'est du très célèbre Patrick Modiano. Un tout petit extrait d'abord à vous lire parce que c'est ce qu'on nous donne sur les pages de chez Gallimard et sur le site de la collection Écoutez lire. Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux de la phrase qui chaque fois me surprenait quand je feuilletais l'agenda. Si j'avais su. On aurait dit une voix qui rompait le silence, quelqu'un qui aurait voulu vous faire une confidence, mais y avait renoncé ou n'en avait pas eu le temps. Précise et sensible, la voix de Denis Podalydès, le comédien, nous entraîne sur les traces d'une femme inconnue et disparue dans les méandres du rêve et de l'oubli. Encre sympathique, nous dit un lecteur de Babelio, nous embarque sans préavis au basque d'un narrateur obnubilé, bien qu'il s'en défende par la disparition d'une femme nommée, peut-être, Noël Lefebvre, une évaporation qui est prétexte à retrouver une atmosphère familière à Modiano et à nous-mêmes par la même occasion, et un vagabondage qui est tout sauf chronologique dans les rues de la capitale, un café, un dancing, un garage et les PTT. Les PTT, faut savoir que c'est la poste. Voilà, en France. Alors, on va en écouter un extrait pour finir cette émission, extrait de Encre sympathique de Patrick Modiano, lu par Denis Podalydès.
Encre sympathique, Patrick Modiano. Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. Maurice Blanchot. Il y a des blancs dans cette vie, des blancs que l'on devine si l'on ouvre le dossier. Une simple fiche dans une chemise à la couleur bleu ciel qui a pâli avec le temps. Presque blanc, lui aussi, cet ancien bleu ciel. Et le mot « dossier » est écrit au milieu de la chemise, à l'encre noire. C'est le seul vestige qui me reste de l'agence de Hutte, la seule trace de mon passage dans ces trois pièces d'un ancien appartement dont les fenêtres donnaient sur une cour. Je n'avais guère plus de 20 ans. Le bureau de Hutte occupait la pièce du fond avec l'armoire aux archives. Pourquoi ce dossier plutôt qu'un autre? À cause des blancs, sans doute. Et puis, il ne se trouvait pas dans l'armoire aux archives, mais il demeurait là, abandonné sur le bureau de Hutte. Une affaire, comme il disait, qui n'avait pas encore été résolue, le serait-elle jamais?
Quelle voix, hein, Denis Podalydès, lisant du Patrick Modiano. Voilà, c'était deux livres que j'avais envie de vous suggérer en cette fin du mois de janvier à l'émission des livres plein les oreilles, qui une fois encore et vous était présentée par Clotilde Seille. C'est le temps des remerciements. Remercier notamment Normand Payette, avec qui je me suis entretenue par téléphone. Normand Payette, qui a écrit « Les surveillants du fleuve », un livre que vous pouvez retrouver très facilement sur le site de chez Vuzévoix, livreaudio.vuzévoix.com, au milieu de tous les autres livres que nous avons enregistrés depuis maintenant un peu plus d'un an. Et il y en a en pagaille. Essais, littérature jeunesse, polar, romans historiques, romans, essais sur la musique. En tout cas, il y en a vraiment pour tous les goûts. Allez donc y jeter un petit coup d'œil. Merci également à Faline Beaubier de Caeb. Et puis, merci à l'ami Mathieu Tessier qui était en cabine aujourd'hui. C'était Clotilde Say. Je vais vous souhaiter écoutez, de belles lectures et vous retrouver dès le début de la semaine. Pas le début de semaine prochaine, dès jeudi prochain, parce que l'émission commence à être diffusée le jeudi à midi. Cela dit, vous pouvez l'écouter absolument quand vous voulez via les podcasts et via notre site, bien sûr, le site canalm.vuzévoix.com, mais c'est peut-être le contraire et c'est pas grave, de toute façon, vous allez le trouver facilement. Allez, salut tout le monde, bonne semaine. Thank you.